Ce balado est une présentation de ADP Canada.
Je ne peux même pas énumérer le nombre de programmes qui est disponible tellement il y en a, mais il y en a au-delà d'une centaine là, au Québec, incluant, bon, évidemment, les ressources humaines, tout comme d'autres secteurs d'activité. Au-delà, encore une fois, de Service Québec, les institutions standards, il y a énormément de choses sur le marché qui sont disponibles. Il faut juste prendre le temps d'être un petit peu curieux puis de faire des recherches.
Pour ce nouvel épisode du balado Idées de grandeur, on reçoit Sarah Masticotte, consultante RH chez Pratique, une firme de ressources humaines bien établie dans la région de la Naudière. On va entre autres parler d'un sujet qui risque d'intéresser plusieurs entrepreneurs, qui est les subventions disponibles en ressources humaines. Moi, c'est Ariane Forget, je suis gestionnaire de district chez ADP Canada et je suis aussi l'animatrice du balado Idées de grandeur que vous écoutez en ce moment. ADP Canada, c'est une des plus grandes firmes du monde en termes de gestion de capital humain et c'est aussi l'entreprise pour laquelle je travaille avec fierté depuis maintenant 3 ans. Sans plus attendre, allons rejoindre Sarah. Je suis tellement contente de te recevoir, c'est vraiment spécial pour moi.
Plaisir partagé, ma chère Ariane.
Aujourd'hui, c'est sûr qu'on pourrait parler plein de choses parce que chez Pratique, vous avez plusieurs expertises, mais on a décidé de se pencher sur quelque chose qui est plus pointu et que personnellement, je trouve qu'on manque d'informations à ce sujet-là. Donc, c'est les subventions disponibles en ressources humaines. Ça peut sembler un sujet pas trop excitant, mais... Moi, je trouve ça pas pire excitant quand on est capable d'aller chercher des sous pour mettre en place nos projets qui vont nous aider à atteindre nos objectifs stratégiques.
Absolument. Moi, les économies, ça m'excite tout le temps. Donc, dans tous les cas, on va essayer de partager le maximum d'informations justement pour que les entrepreneurs, en fait, puissent, comme tu le mentionnes, aller chercher le maximum possible dans le marché, là.
Donc là, on va y aller de base, pas trop, une question pas trop difficile pour commencer, mais qu'est-ce qui peut être subventionné en RH, at large?
Oui, honnêtement, la liste est longue. Évidemment, bon, aujourd'hui, on va parler plus de ce qui touche là, les ressources humaines. Puis évidemment, par exemple, ce qu'on offre chez Pratique, c'est pas parce que je veux parler de nous, mais l'ensemble des services qu'on offre sont généralement subventionnables. Donc, on parle de formation, de santé-sécurité, de recrutement, de gestion des RH de façon générale. Ce sont des services qui sont couverts par des subventions. Donc, ça peut être, par exemple, le développement d'un programme de mobilité interne, ça peut être la réalisation d'un diagnostic RH, du coaching de gestion. Honnêtement, là, la liste est longue. Ce qu'il faut exclure, par contre, puis souvent, les gens, malheureusement, ne sont pas au courant de ça, c'est tout ce qui est obligation législative. Donc, si on parle, par exemple, de l'équité salariale, qui, évidemment, est obligatoire, toutes les entreprises doivent, bon, évidemment, passer via ce processus-là. Ce n'est pas quelque chose qui est subventionnable, puisque c'est obligatoire de par la loi. Donc, même si c'est typiquement RH, ben malheureusement, ça ne rentre pas là, dans le fameux créneau de ce qui est subventionnable. Par contre, une étude de rémunération, par exemple, pour mettre en place un programme de rémun, développer des échelles salariales, etc., même si c'est dans le même secteur d'activité que l'équité salariale, ben là, à ce moment-là, on aurait accès à des programmes de subvention.
Donc, si je ne me trompe pas, quand on n'est pas certain, on est mieux d'aller vérifier si c'est subventionnable, parce que ça, on peut se perdre dans tout ça, là.
Absolument. En fait, je peux même pas énumérer le nombre de programmes qui est disponible tellement il y en a, mais il y en a au-delà d'une centaine là, au Québec, incluant, bon, évidemment, les ressources humaines, tout comme d'autres secteurs d'activité. En fonction également de la région dans laquelle on est, parfois, on a accès à des programmes, d'autres non, parce que certains organismes locaux vont mettre, en fait, des programmes spéciaux, en fait, en place, là, exclusivement pour les gens ou les entrepreneurs de leur région. Donc, oui, comme tu dis, c'est facile de se perdre là-dedans, d'où l'importance, justement, d'avoir un certain plan stratégique, là, au niveau de c'est quoi qu'on veut faire, puis établir nos priorités pour s'assurer d'aller chercher des fonds aux bons endroits, là.
OK. Puis c'est sûr, je veux qu'on rentre dans c'est quoi les programmes qui sont offerts, mais juste avant, j'aimerais que tu nous dises, y a-t-il une taille minimale d'entreprise pour être capable d'avoir accès à ces subventions-là? Parce que je suis certaine qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent qui sont des startups, comme il y en a qui sont des PME bien établies, en super croissance, on va avoir de tout. à l'écoute. Donc, j'aimerais vraiment que tu nous décortiques un peu à quel moment on peut commencer à penser à aller chercher des subventions.
C'est vraiment une bonne question. Puis ma réponse, ça serait à partir de l'état embryonnaire. C'est-à-dire que tu peux être, en fait, pas travailleur autonome nécessairement, là, puis je vais en parler un petit peu plus longuement, mais tu peux être seul détenteur de ton entreprise sans aucun employé et quand même avoir du soutien qui est disponible. J'ai notamment, à titre d'exemple, aidé un entrepreneur qui souhaitait justement réaliser sa première embauche, qui ne savait pas comment faire, souhaitait mettre un manuel de l'employé en place, avoir du soutien pour avoir une certaine structure RH. Ce sont des genres de services qui sont subventionnables. Par contre, il faut que l'entreprise soit enregistrée au registre des entreprises. Donc, c'est peut-être des fois le petit glitch des fois, lorsqu'on est travailleur autonome, on n'a pas nécessairement de business qui est incorporé ou enregistré. Donc, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Par contre, il faut toujours garder en tête que Service Québec, par exemple, qui est un des organismes qui subventionne des entreprises, va justement prioriser la fameuse PME dont tu parles. Donc, l'entreprise qui possède entre 6 et 99 employés. Ça, c'est vraiment le créneau au Québec où on a le maximum de subventions qui est disponible. Puis là, à ce moment-là, qu'il s'agisse encore une fois d'une entreprise privée, d'un OBNL, d'une société par action, la forme juridique de l'entreprise, elle n'a pas d'importance tant aussi longtemps qu'elle est constituée aux yeux du registraire des entreprises. Puis, l'autre embûche, des fois, peut même se présenter pour les très grandes entreprises. Donc, ça va arriver malheureusement qu'une entreprise qui est tellement grande, qui est tellement grosse, malheureusement, qu'il y a un chiffre d'affaires ou encore un nombre d'employés qui est trop élevé, puis à ce moment-là, ne seront pas éligibles à certains programmes parce qu'évidemment, les programmes sont mis en place pour aider à la croissance, justement, des petites entreprises. Donc, c'est un petit peu ça au niveau de la taille. Autant qu'il peut y avoir un minimum, qu'il y a aussi parfois un maximum qui s'impose.
Wow! Mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il faut justement s'informer parce que comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est disponible puis lequel qui peut ça être bon pour nous ou quoi que ce soit. J'imagine que c'est quasiment un job à temps plein de se mettre à jour dans tout ça. Wow, OK. Donc, super intéressant. Par contre, de voir à quel point c'est disponible pas mal pour toutes les entreprises. Puis, je ne m'attendais pas à ce que tu nous dises que même en étant solopreneur, on pouvait déjà aller chercher des subventions. Donc, super intéressant. Oui, est-ce que tu peux nous parler des programmes offerts? Je sais là, qu'il doit en avoir vraiment plusieurs, juste avec tout ce que tu viens de nous dire. Admettons que tu te concentres à nous mentionner les plus importants. Puis après ça, je suis sûre que tu peux nous donner une espèce de guide ou un endroit où on pourrait suggérer aux gens d'aller voir pour s'informer puis se tenir à jour.
Absolument. En fait, premièrement, j'aimerais ça parler un petit peu des programmes de subvention pour les minorités ou du moins les groupes particuliers. Tu sais, je donne un exemple, tout ce qui est minorité visible, que ce soit au niveau, de la culture, etc., que ce soit même au niveau, par exemple, de la CNESST, donc les victimes professionnelles qui ont eu des lésions par le passé, qui cherchent à être réintégrées, malheureusement, qui ne peuvent pas le faire dû à un ancien emploi, bien, il y a des subventions qui existent pour ça. Souvent, qui vont aller d'ailleurs jusqu'à subventionner 80 % du salaire de la personne ou qui vont subventionner, par exemple, des installations particulières. Donc, je donne un exemple, on engage un handicapé qui est en chaise roulante, on a besoin d'avoir une rampe, on a besoin d'installations particulières. Bien, il y a des programmes, évidemment, qui viennent nous soutenir. Et dans ce genre de cas-là, ça peut même aller jusqu'à 100 % de subvention pour une entreprise qui est ouverte à ce genre d'idées-là. Donc, il y a de l'argent qui dort, honnêtement, au Québec, dans des coffres. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine là, d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Sinon, outre ça, moi, j'adore le PAMT. En fait, c'est un programme qui vise à former des formateurs, mais chez nous. Donc, au lieu de constamment aller chercher une expertise à l'externe, bien évidemment, on veut développer l'expertise à l'interne, avoir quelqu'un qui va être en mesure, par exemple, d'effectuer l'accueil et l'intégration de nos employés, etc. Mais pour le développement de cette personne-là, de la mise en place des programmes, etc., souvent, on peut aller chercher jusqu'à 75 % de subvention. Donc, honnêtement, à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant. On a parlé aussi un petit peu plus tôt là, dans l'appel du soutien en gestion RH. Fait qu'évidemment, je réitère là, que tout ce qui est RH, SST et ça dans les grandes lignes, là, donc on peut exploser, là, si on veut, la catégorie, mais généralement, on va aller chercher 50 % de subvention aussi à ce niveau-là. On peut parler de l'implantation des progiciels, on peut parler de stabilisation de l'emploi, on peut parler de mesures d'apprentissage. Honnêtement, là, la liste est longue. J'en aurais encore plusieurs autres à nommer, mais je vais me limiter ici pour m'assurer là, de pouvoir nommer peut-être où on peut trouver justement ces informations-là. Donc, d'une part, Service Québec, qui est, je dirais, l'entité numéro un en termes de subventions au Québec. Donc, d'une part, sur leur site web, évidemment, on peut trouver l'ensemble généralement des programmes de subventions qui sont disponibles, mais aussi, ça vaut la peine de simplement leur lâcher un petit coup de fil. Donc, Service Québec a comme mission, évidemment, d'aider les PME, encore une fois, à mettre l'ensemble des programmes pouvant les soutenir, pouvant soutenir la croissance de la business. Donc, on contacte notre conseiller local, puis évidemment, lui va aussi nous faire part de l'ensemble des programmes qui sont disponibles. Ça nous évite parfois le petit job de recherche. Puis comme je le mentionnais, mais évidemment, la CNESST, pour tout ce qui est réintégration, peut être également une bonne source là, d'informations, tout comme évidemment les organismes locaux. Donc, tantôt, là, je parlais rapidement que parfois en région spécifique, comme nous dans la Naudière, bon, évidemment, on a contact la Naudière, Place aux jeunes en région, etc., bien, ces organismes-là, souvent, vont mettre aussi des programmes spécifiques pour aider les entrepreneurs de la région, vont même parfois offrir des programmes complètement gratuits. Là. Dernièrement, à titre d'exemple, il y a eu un programme qui permettait, pour faire rayonner les entreprises, d'avoir un vidéo corpo gratuit pour, évidemment, bon, aider au recrutement, etc.
Excuse-moi, c'est bien le fun!
C'est ça, exact. Donc, ça, c'est le genre d'initiative qui est souvent fait localement par des organismes de la région. Donc, ça vaut la peine aussi, là, outre Service Québec et les grandes entités de ce monde, là, de voir ce qui se fait finalement dans notre région de façon locale. Puis évidemment, ben, en plus, on fait mousser un peu là, l'économie des gens d'ici. Donc, c'est vraiment super, là.
Je nous interromps quelques secondes pour vous livrer un petit message important. Ce balado-là, on le fait pour vous et c'est pour ça que je vous invite à m'écrire pour me partager vos questions, vos suggestions et vos idées grandeur. Ariane avec juste un n.forget@commercialadp.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre, je lis tout.
Justement, concerne, moi, ce que j'appelle ça le marketing RH, là, donc rayonnement de la marque employeur, tout ça, là, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place, tout comme d'ailleurs aussi tout ce qui concerne les activités physiques. Là. De plus en plus, on veut que les gens bougent, tout comme on veut faire rayonner les entreprises. Donc, des fois, ça vaut la peine aussi d'avoir l'œil ouvert à ce niveau-là, parce que certains ministères également qui mettent des programmes en place, comme le ministère de l'Éducation présentement qui met en place un programme de financement pour une business justement qui voudrait faire bouger ses employés. Puis on peut aller chercher jusqu'à 40 000 $ là, pour, par exemple, créer un gym en entreprise, créer des formations pour faire bouger nos employés, etc. Donc, au-delà, encore une fois, de Service Québec et les institutions standards, il y a énormément de choses sur le marché qui sont disponibles. Il faut juste prendre le temps d'être un petit peu curieux puis de faire des recherches.
Mais c'est ça, puis j'imagine que c'est ce qui manque souvent aux entreprises. Comme pour plusieurs autres projets, ils ont plein de choses qu'ils veulent mettre en place, mais il manque de temps. On le sait, tout le monde est débordé. Il y a plein de belles idées, mais des fois, on a juste besoin justement d'être aiguillé puis c'est d'avoir le petit push de plus pour faire « OK, go ». On se lance, puis vers où on va? C'est quoi notre étape numéro un?
Absolument, puis je dis toujours que le temps, on l'a. On ne fait juste pas le prendre. Donc, si c'est une priorité pour nous, pour l'entreprise, puis il faut rappeler qu'à un moment donné, avec cette dépense-là de temps, on va générer quand même un retour sur investissement. Donc, il faut vraiment calculer le retour quand même sur le temps qu'on va investir là-dedans. Fait que moi, je recommande toujours de se mettre des petits blocs horaires là, en tant que tel pour s'imposer justement de faire des recherches à ce niveau-là. Ça en vaut vraiment la peine. Ça serait une de mes recommandations.
Super belle recommandation. Puis là, tu as mentionné quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Là, ça fait 3 épisodes, donc j'en parle à chaque fois. J'ai toujours une question là-dessus. Le ROI. Est-ce que tu es capable de nous donner des stats ou une idée de comment le calculer exactement? Ce serait quoi le retour sur investissement? Soit des exemples concrets que tu as ou n'importe quoi. C'est une question ouverte là, pour un peu donner du jus à nos auditeurs de c'est quoi le retour sur investissement en allant chercher une subvention RH, peu importe dans quel segment que tu as énuméré plus tôt.
Absolument. Ben, c'est sûr que, tu sais, je pense que ça revient aussi à une question par rapport à comment aussi on développe la stratégie, tout comme, bon, évidemment, comment on peut calculer notre retour sur investissement. Puis, en fait, c'est d'avoir un plan. Si on n'a pas de plan, on ne sait pas où on s'en va, puis on ne saura pas comment on va avoir de retour sur investissement. Fait que je pense que la base de ta question, c'est de savoir est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, puis est-ce qu'on a fait notre liste d'épicerie. OK? Selon moi, là, c'est vraiment la base. Donc, l'étape 1, selon moi, c'est vraiment de déterminer c'est quoi nos orientations. Puis là, je ne parle pas des orientations de qu'est-ce qu'on veut faire dans 10 ans, là. Dans 0, 12 mois, là, c'est quoi les objectifs de l'entreprise? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi nos priorités? Là, évidemment, on fait une liste d'épicerie. J'aime bien cette appellation-là, qui nous permet de dire, ben là, cette année, notre priorité, par exemple, c'est de mettre en place un nouveau programme de rémunération. On n'est pas dans le marché, on a des problématiques. Et là, on vient vraiment cibler un besoin X. Parce que demain matin, si on part dans le free-for-all de tout ce qui est offert comme formation, sans savoir ce qu'on veut prioriser à l'interne, ben, on peut se perdre là, très facilement. L'autre chose, ça va être de déterminer combien de projets on veut développer. Puis comme tu l'as mentionné, des fois, on n'a pas les ressources ou on n'a pas le temps, etc. Donc, en fonction, encore une fois, de la personne qu'on va nominer, et je recommande qu'on nomine une personne en responsabilité des subventions, bien évidemment, de déterminer, parfait, cette année, on part un, deux, trois projets. Et en fonction de ça, il y a telle subvention qui est disponible. Voici comment le budget est réparti. Voici comment on peut aller chercher. Donc, évidemment, c'est assez facile de faire les calculs. Puis, il faut faire attention parce que certains programmes de subvention vont, par exemple, financer à 50 %, d'autres à 70, d'autres à 75, d'autres à 85, même en fonction de certains programmes spéciaux qui sont souvent de plus courte durée aussi, évidemment. Donc, il faut faire attention pour attribuer aussi la bonne subvention au bon projet et ainsi, là, bon, évidemment, là, avoir un certain retour. Dans tous les cas, la meilleure stratégie, je réitère que c'est celle qui tient compte de la planification stratégique de la business. Parce que si moi, Sarah, je décide à titre de gestionnaire des ressources humaines que c'est ça mon projet cette année, mais que l'entreprise s'en va complètement arrière, bien évidemment, non plus, on ne sera pas en adéquation avec les programmes ou avec la ligne directrice de l'entreprise. Puis on arrive pour dire à notre DG, voici mon projet. Parfait, on va arriver au front, puis on risque d'avoir un refus, puis on ne comprendra pas pourquoi. Donc, ça va être important aussi d'avoir un projet qui fait du sens avec l'orientation de l'entreprise, puis ainsi gagner en temps aussi, puis en argent, là, parce que si on dépense notre énergie, encore une fois, à faire de la recherche de subventions ou de projets pour lesquels finalement on n'ira pas de l'avant, bien évidemment, c'est un gain malheureusement qui est nul là, ici, là. Fait que, évidemment, je réitère les mots-clés, établir des objectifs qui sont réalistes. Tenir compte de la disponibilité des ressources qu'on a à l'interne qui vont évidemment gérer les projets. Puis évidemment, nos ressources aussi matérielles et financières, sans grande surprise. Puis dans tous les cas, généralement, ça va favoriser là, des grandes chances de réussite, là. Donc, j'espère que ça répond bien à ta question.
Ça répond plus que bien. Puis, tu as nommé aussi quelque chose ici qui vient me chercher, c'est le fait de se parler en équipe et de s'assurer que les subventions sont alignées avec la vision stratégique. Trop souvent, on voit des super personnes en RH qui sont motivées fois mille à changer le monde dans l'entreprise. Là, ils se mettent à travailler à fond sur des projets. Je sais que tu ris parce que c'est clair que tu as vu ça souvent.
J'ai déjà été cette personne-là. C'est pour ça que je ris
Ah
à rien.
oui, j'osais pas le dire, là. Je suis sûre là, que ça t'est déjà arrivé. Je sais à quel point tu es super créative, puis que tu veux, puis que tu fonces. Mais tu sais, moi, j'en vois tout le temps aussi. Puis je sais qu'en RH, ben, ça fait partie de votre job de justement être motivé puis créatif pour mettre en place des choses qui sortent de l'ordinaire pour le bien-être et tout ça. Mais souvent après, il y a du travail qui a été fait, puis boum, il frappe un mur parce que en haut, la vision de la haute direction s'en va ailleurs. Puis souvent, les rencontres se font après que les personnes au RH aient fait déjà beaucoup de démarches, puis pourtant, ils étaient sûrs de leur affaire, mais ça n'avait pas été bien aligné dès le départ. Fait que je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que moi, je le vois, tu sais, dans mon travail de tous les jours, quand justement, on le sait, là, il y a des gens qui veulent mettre en place des SIRH, puis là, finalement, des fois, mais c'est pour ça que, bon, à la fin, c'est plus long que prévu parce que là, ils n'ont pas pris le temps avant de jaser de ça. Donc,
Exactement.
très bon point de s'assurer c'est quoi qu'on veut faire? Puis, OK, si on a un projet en RH, puis qui n'est pas rentré dans la vision stratégique tout de suite, bien, déjà demander, est-ce qu'on peut le mettre pour le plan stratégique de l'année prochaine? Ou, tu sais, déjà le planifier à l'avance. Prendre de l'avance, finalement.
Exactement. Tu sais, c'est important de penser en fait que les RH font aussi partie en fait d'une entreprise, puis de façon très importante d'ailleurs. Souvent, on est un peu la bébite à part ou parfois même exclu, par exemple, des comités de direction, ce qui pour moi est un fléau. Je pense que de plus en plus, on est reconnu à notre juste valeur là, dans le domaine des RH, mais c'est vraiment important de démontrer justement la plus-value d'une part de notre existence, là, puis d'autre part de ce qu'on peut apporter justement à l'entreprise. Puis je pense que par le biais des subventions, justement, c'est une des manières de se démarquer puis de dire « Salut, je suis là, puis voici ce que je peux apporter à l'entreprise. » Donc, importance majeure de mentionner puis de faire partie, comme tu dis, vraiment faire partie prenante, en fait, là, de l'alignement stratégique de l'entreprise, encore une fois, pour s'assurer qu'on pagaye pas tout seul, là.
Non, exact. Puis, tu sais, c'est l'alignement stratégique, c'est en tout cas money talks. On va se dire ça de même, money talks. Quand tu dis j'ai un projet, mais je sais que je peux aller chercher tant d'argent pour le subventionner, bien, tout d'un coup, c'est intéressant pour plus de gens. Donc, ouais. Il y a un sujet, Sarah, que j'aimerais aborder. Je ne sais pas comment tu vas voir ça, si tu as une réponse claire, mais bon, on le sait qu'en ce moment, avec tout ce qui s'est passé, bon, la pénurie de main-d'œuvre, la grande démission, etc., je ne vous apprends rien à tout le monde qui nous écoute. On sait qu'on est souvent porté, obligé, slash, on n'a plus le choix de commencer à recruter à l'international.
Oui.
De quelle façon et à quel moment on peut penser que ça peut être bénéfique d'aller chercher une subvention pour le recrutement à l'international?
Dès le moment où on pense à embaucher à l'international. C'est aussi simple que ça. Dans l'optique où on n'est pas obligé d'avoir fait déjà des démarches par le passé, d'une part, pour avoir accès à une subvention. Donc, j'ai pas, moi, comme entrepreneur, une obligation de dire, bon, mais il faut que j'aille déjà 3-4 personnes qui proviennent de l'étranger pour avoir accès à des fonds. Donc, dès le moment où on sait qu'on n'a plus, malheureusement, le choix, comme tu le mentionnes, d'aller à l'externe parce que notre main-d'œuvre ici ne permet pas de répondre à nos besoins. Bien évidemment, on pense également aux subventions qui sont disponibles. Principalement au Québec, il y en a une. En fait, elle vise, bon, évidemment, tout ce qui est la démarche de recrutement, justement, de la personne qui vient de l'extérieur. Puis, tu sais, rapidement, là, un dossier pour les gens qui nous écoutent, qui proviennent justement de l'extérieur, peut coûter entre 2500 et 8000 $ pour une seule embauche. Donc, évidemment, c'est des coûts de recrutement qui sont beaucoup plus élevés que recevoir un CV, passer une entrevue téléphonique puis embaucher une personne au Québec, là. Bon, on s'entend. Par contre, on peut aller chercher jusqu'à environ 50 % de ces frais-là, en fait, en subvention. Toutefois, c'est important d'être accompagné dans le processus par des professionnels. Donc, si monsieur, madame, tout le monde, comme président d'entreprise d'un matin, contacte le ministère de l'Immigration en disant « moi, je vais avoir du soutien, je vais aller chercher à l'externe », bien, ils vont les obliger à faire affaire soit avec nous, par exemple, comme experts en recrutement, ou encore à des consultants d'immigration, des avocats, des notaires. Bref, il va devoir y avoir des parties prenantes légales, en quelque sorte, ou du moins experts pour les accompagner, pour en fait avoir aussi des frais, évidemment, puis une certaine garantie, parce qu'évidemment, les processus de recrutement à l'international, puis c'est important de le mentionner, c'est pas facile, c'est pas des processus qui se font les deux doigts dans le nez en bon québécois, et c'est des processus aussi qui sont à risque. Donc, évidemment, il faut quand même être accompagné de professionnels pour le faire, mais dans tous les cas, lorsqu'on sait qu'on peut aller chercher 50 % des frais admissibles, bien, ça vaut la peine d'y penser dès la première embauche. Malheureusement, il y a un plafond, donc on peut aller chercher jusqu'à 1 200 $ Donc, dans l'optique, par exemple, où on a un recrutement qui nous a coûté 2 500, bien évidemment, on a vraiment un retour sur investissement de 50 %. Par contre, dans l'optique où on a un candidat qui, finalement, dont le dossier a coûté 7 8 000 $ peut-être, bien là, évidemment, on n'est plus à 50 %, on se rapproche plus du 20 %. Mais quand même, je me dis, si l'argent est là, encore une fois, bien, il faut aller la chercher. Puis, autant que c'est également, bon, évidemment, dans l'intérêt des entreprises, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, money talks, mais ça répond aussi aux besoins imminents de la main-d'œuvre, puis ça permet à des entreprises de rester ici puis d'assurer aussi leur pérennité dans l'optique où j'ai vu, malheureusement, des entreprises fermer leurs portes à bout de souffle en n'ayant pas les ressources nécessaires. Donc, dans tous les cas, oui, parfois, ça peut avoir l'air peut-être contradictoire, mais parfois, de réaliser du recrutement à l'étranger permet quand même d'assurer la pérennité des entreprises d'ici puis de faire rouler l'économie. Donc, faut pas penser nécessairement qu'en allant recruter à l'étranger, là, qu'on n'encourage pas l'économie d'ici. Au contraire, parfois, on assure la pérennité de certaines entreprises.
Si vous voulez ne rien manquer de nos prochains balados et des nouvelles tendances dans le monde entrepreneurial, je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Ariane Forget, juste un N à Ariane. Je partage beaucoup de contenu en lien avec le leadership et les ressources humaines, et le tout est toujours saupoudré de mon légendaire sens de l'humour.
Puis combien de temps on doit prévoir si, admettons, moi demain matin, hey, là, je réalise, il faut que j'aille embaucher à l'international. Là. Combien de temps ça peut me prendre du moment où j'y pense au moment où je peux aller chercher une subvention?
J'ai deux réponses pour toi à cette question-là. Dans l'optique où il y a des processus simplifiés, tout comme il y a des processus non simplifiés. Donc, il y a des types d'emplois qui, présentement, sont considérés tellement en pénurie qu'ils font un processus simplifié. Donc, généralement, à ce moment-là, on parle d'un processus d'environ 6 mois. 0-6 mois, puis on a la personne vraiment en poste, là, en entreprise, elle est là. Toutefois, pour les gens qui ne sont pas sur la liste simplifiée, donc on parle de types d'emplois qui sont moins en pénurie, par exemple au Québec, qui ne font pas partie de la fameuse liste magique que j'appelle, ben à ce moment-là, ça peut prendre parfois jusqu'à 2 ans, malheureusement. Donc, c'est le genre de processus dans lequel on ne se lance pas du jour au lendemain parce qu'on a besoin de quelqu'un demain. Il faut, encore une fois, prévoir notre main-d'œuvre. Évidemment, RH, ça fait partie aussi de notre rôle d'avoir des indicateurs à ce niveau-là, valider à l'avance, est-ce que j'ai des départs à la retraite, qu'est-ce qui s'en vient, est-ce que j'ai des besoins de production qui vont nécessiter des employés de plus. Donc, c'est important de prévoir dans le temps nos besoins. Puis à ce moment-là, bien évidemment, de commencer le processus le plus rapidement possible pour s'assurer, encore une fois, de ne pas être à moins 5 ou moins 10 ou voire moins 15 employés, là.
OK, très bonne réponse. C'est super intéressant. Je suis certaine que je n'étais pas la seule à avoir cette question-là. En tout cas, j'espère. Puis, mettons qu'on a besoin de quelqu'un à l'interne pour gérer ça. Puis, on est une PME en croissance, mais on n'a pas encore eu notre budget ou dans notre planification stratégique, on n'a pas encore engagé une ou un DRH. Comment on peut calculer la meilleure option entre embaucher notre DRH à l'interne ou prendre quelqu'un de l'externe pour nous aider à monter notre département RH puis aller chercher certaines subventions?
Ben, en fait, je dirais tout d'abord, généralement, avec le nombre d'employés qui est un bon indicateur. Généralement, là, je dirais qu'une ressource RH est requise quand on a 50 employés, à peu près. J'ai des clients qui, à 30 employés, ça criait, il y avait besoin de quelqu'un par rapport à des fois au secteur d'activité ou aux besoins de la business de façon spécifique. J'ai également d'autres clients qui ont attendu d'avoir 100 employés avant de décider d'embaucher leurs ressources RH parce que Ginette à la comptabilité, puis Monique à la réception prenaient un peu des responsabilités, puis ça leur a permis finalement de poursuivre, parfois malheureusement en respirant au travers d'une paille, mais quand même de poursuivre les opérations avant d'embaucher une ressource RH. Mais gardons en tête là, que généralement, la moyenne, c'est 50 employés, on a besoin de quelqu'un qui est centralisé, qui s'en occupe. Pour savoir si ça vaut la peine d'aller embaucher directement, on va à l'extérieur, on va en impartition, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dirais que d'une part, quand on veut embaucher quelqu'un pour starter un département RH, on n'embauche pas une personne qui sort de l'université sans grande surprise. On veut quelqu'un qui a généralement un bac en ressources humaines, un minimum de 5 ans d'expérience, puis idéalement même un titre CRHA. Donc, évidemment, ce genre de ressources-là, évidemment, a quand même un coût aussi dans le marché. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Ce que moi, je recommande à ce moment-là, c'est de faire affaire avec une firme RH qui, elle, va faire au minimum un diagnostic puis dire à l'entreprise, est-ce que oui ou non, d'une part, tu es rendu à avoir ta ressource RH? Sinon, on va t'aider en impartition à temps partiel puis ça va être bien correct pour toi. Ça va te coûter 25 % du coût d'une ressource à temps plein. En plus, tu vas être subventionné pour notre soutien. Ou carrément, tu as besoin d'embaucher, mais en plus d'avoir besoin d'embaucher, mais je vais te soutenir dans cette embauche-là. Donc, je vais te monter un plan d'action pour déterminer, voici la structure que la personne va devoir mettre en place pour monter de façon efficiente un département RH. Je vais t'aider au recrutement de cette personne-là. Puis en plus, je vais la coacher pendant 1 an pour m'assurer qu'elle met en place le plan, parce que c'est bien beau faire un plan, mais il faut toujours bien le suivre. Puis évidemment, le mettre en place. Puis tout ça, encore une fois, c'est aussi subventionnable à 50 %. Donc, dans tous les cas, je considère que c'est toujours gagnant au moment où on se pose la question, à savoir est-ce qu'on doit avoir une ressource RH ou pas, d'appeler une firme qui va pouvoir nous confirmer si oui ou non on a besoin d'un besoin et qui va nous épauler finalement dans le programme. Puis, je réitère que s'ils font affaire avec nous, qu'on embauche une personne, bien, il y a un programme de subvention qui permet aussi de subventionner le salaire de la personne qu'on a embauchée. Donc, d'une part, le processus avec nous est à 50 %, mais le salaire de la ressource humaine, évidemment, expert, le profil dont je vous ai parlé tantôt, va aussi nous coûter 50 % du coût pendant la première année. Et parfois même jusqu'à 2 ans. Puis souvent, ça arrive, là, on va promouvoir le programme puis on va le renouveler sur une échéance de 24 mois. Donc, dans tous les cas, là, ça vaut vraiment la peine de faire appel à des experts lorsqu'on pense qu'on est rendu là.
Ah, wow! C'est très complet comme réponse, Sarah. Puis, encore une fois, ça m'arrive régulièrement, tu sais, de tomber sur des entreprises qui ont été dans cette situation-là, qu'ils sont, quoi que ce soit. Donc, tu sais, moi, ça, je leur dis que, tu sais, il y a des choses qui existent, tout ça. Puis, il existe aussi des services comme nous, là, tu sais, ADP, tu sais, on peut faire les partitions de la paye. On fait le co-management au niveau des ressources humaines. Donc, des fois, ça va être un mix aussi de tout ça. Puis, c'est pour ça aussi qu'on collabore ensemble. Fait que c'est super le fun. Bref, ce qu'on essaye de dire, je pense, c'est n'hésitez pas à aller demander de l'aide.
Exact. Exactement. Puis souvent, c'est méconnu, malheureusement, où les gens se mettent en tête que nos services coûtent les yeux de la tête, encore une fois, pour reprendre une expression de chez nous. Mais je dis que la plupart de mes clients demeurent surpris d'une part du peu de nombre d'heures qui est demandé ou du moins qui doit être mis en place là, pour pouvoir vraiment les soutenir. Puis comme je le mentionnais, la majorité en plus des services sont offerts à 50 %. Donc, dans tous les cas, faut pas hésiter à demander de l'aide quand on sait qu'on est rendu là.
Excellent. En terminant, Sarah, on pourrait en jaser pendant vraiment longtemps, mais là, mettons qu'on termine sur es-tu capable de nous donner quelques exemples? Tu en as donné quelques-uns. En as-tu d'autres qui te viennent rapidement? De certains projets de tes clients qui ont subventionné des choses dans les dernières années, juste pour donner le goût aux gens d'avoir une idée de ce qu'ils pourraient faire.
Ben en fait, parmi les projets les plus intéressants, selon moi, c'est notamment l'implantation justement de départements RH dans l'optique où tout est à mettre en place. Donc, on n'a souvent rien. Parfois, on n'a même pas de grille d'entrevue. Tu sais, on fait ça un peu à la bonne franquette ou selon, bon, évidemment, ce qu'on pense. Donc, on peut, par exemple, chez Pratique, tout comme dans des secteurs d'activité pointus, mais de façon générale, monter, développer des outils pour l'entreprise pour qu'elle devienne autonome. Puis tout ça, c'est subventionnable. Donc, par exemple, monter un manuel de l'employé, monter des programmes de formation pour de l'accueil intégration. Et ça peut aller très, très loin. Tout tantôt, on a parlé de programmes de rémunération, etc. Donc, dans tous les cas, c'est le genre de programme qui est subventionnable. Puis je dirais que c'est des programmes également, bon, évidemment, de longue haleine. On ne fait pas tout ça à l'intérieur de 30 jours, là, sans grande surprise. On a des clients parfois bon, qui vont. Évidemment, renouveler même des ententes 1 an, 2 ans, 3 ans parce qu'on n'a pas fini encore bon, de faire l'implantation. Il ne faut pas penser non plus qu'une implantation RH, ça se fait en claquant des doigts. Il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, dans tous les cas, ça serait un bel exemple, selon moi, de programme. Outre ça, encore une fois, j'ai aidé certains employeurs qui avaient des programmes de pénurie de main-d'œuvre. Tout à l'heure, on parlait de recrutement international. Autant que je les ai aidés, par exemple, à recruter des gens qui avaient des handicaps légers, mais qui répondaient quand même très bien aux besoins de l'entreprise, en ayant, bon, évidemment, un salaire qui est subventionné pratiquement à la hauteur de 80 %, tout comme, bon, évidemment, de l'accompagnement de l'entreprise à ce niveau-là. Donc, parfois, il faut être un petit peu créatif, finalement, dans la recherche de main-d'œuvre, puis ça nous permet de combler nos besoins, tout comme pour certains de nos clients. Mais évidemment, on est allé du côté du recrutement international et on les a enfin permis d'arrêter de souffrir. Et je pense que souffrir est le bon mot, là, malgré qu'il puisse avoir l'air un peu peut-être intense pour certaines personnes qui nous écoutent. Il y a énormément de personnes en ce moment qui ne savent plus comment combler leurs besoins de main-d'œuvre, comment faire. Et à ce moment-là, bien évidemment, il y a plein de choses qui sont en place qui peuvent les soutenir, autant au niveau, bon, évidemment, de la main-d'œuvre un peu particulière, comme je le mentionnais, du recrutement à l'international, tout comme évidemment de la main-d'œuvre, bon, un peu différente, je dirais, qui est disponible sur le marché et qui n'attend que de travailler. Puis, outre ça, mais évidemment, tout ce qui est marque employeur, rayonnement de l'entreprise, bien évidemment, il y a énormément de soutien qui est également disponible, même pour la création de site web. Ça fait partie, évidemment, de la marque employeur, la gestion des réseaux sociaux, la gestion de la communauté. C'est un incontournable en 2022. Selon moi, une entreprise qui n'a pas de site web est en quelque sorte inexistante en ce moment dans le marché. Puis, je comprends malheureusement qu'il y a un budget qui est requis pour créer un site web, animer une communauté qui va donner en fait envie aux gens d'ici d'aller travailler. Mais dans tous les cas, c'est le genre de projet également qui est subventionnable. Donc, il ne faut pas penser non plus que même si c'est un peu à l'extérieur du domaine des ressources humaines, mais qu'il n'y a pas de ressources qui peuvent nous aider. Au contraire, puis évidemment, mais c'est le genre de demande qui nous est souvent faite. Et donc, on a des fournisseurs, on a des partenaires envers lesquels on peut les référer, tout comme, bon, évidemment, ADP, par exemple, pour les services de paye. Donc, dans tous les cas, ça vaut vraiment la peine là, d'avoir une vigie, finalement, sur ce qui est disponible, puis ce qui peut nous soutenir dans le marché, là.
Merci, Sarah. Puis comment on fait pour te contacter ou contacter Pratique s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui veulent en savoir plus?
Super simple. En fait, on peut aller au www.pratique.ca. Pratique, je tiens quand même à le mentionner, on l'écrit simplement Pratiq, donc sans le UE à la fin, ou encore par courriel. En fait, généralement, on envoie le tout au info@commercialpratique.ca. Et pour ceux qui aimeraient nous joindre par téléphone, eh bien c'est au 1-877-977-2847.
Merci! Hey, vraiment, là, merci du fond du cœur. C'était tellement intéressant. J'ai eu l'impression d'avoir mon cerveau rempli d'informations tout d'un coup. Puis j'espère que c'est la même chose pour tout le monde aujourd'hui. Et surtout, que vous allez utiliser certaines de ces informations pour aller chercher des subventions pour faire tous vos projets. Alors, un gros merci, Sarah. Je te souhaite une très belle journée. Puis on se reparle bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
C'est déjà maintenant qu'on doit se dire au revoir. Je suis sûre que ça a paru que j'ai eu énormément de plaisir à jaser avec Sarah. Si vous avez des questions pour elle, gênez-vous surtout pas de la contacter. Dans le prochain épisode, je vais recevoir Catherine Lemaître, qui est une femme extrêmement inspirante qui coach les entrepreneurs à devenir des leaders bienveillants. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour le prochain épisode dans quelques semaines.